Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Le plaisir d'accueillir ce dimanche Leïla Boussina, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue à Beurre FM ce dimanche nous parler d'Ulysse. Ulysse au pluriel, c'est le titre de votre ouvrage. Vous êtes photographe, je vous présente dans un instant. Et ce livre est aussi accompagné d'une très très belle exposition à Paris. Et je vous donnerai tous les rendez-vous très vite. Leïla Boussina, vous êtes originaire de Seine-Saint-Denis, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, mais vous avez une histoire aussi migratoire de vos parents, en tout cas, puisque vous êtes né en France. Et vous êtes aujourd'hui photographe professionnel, vous avez fait des études d'histoire de l'art, option audiovisuelle, donc c'est dire si vous êtes attaché à tout ce qui est image et tout ce qui est regard que vous portez sur une société. Le regard, c'est important, hein, il se pose quelque part, et pour vous, il s'est posé auprès des Chibani. Voilà, on les appelle comme ça aujourd'hui, ces hommes, ces femmes aussi, qui ont traversé la Méditerranée pour tenter une vie meilleure. C'est comme ça aujourd'hui quand on parle d'immigration. C'est pour ça qu'on les appelle, que vous les avez appelés Ulysse. Vous les avez photographiés, vous avez recueilli les récits de leur vie. Ils sont aujourd'hui âgés, ils sont quelquefois plus là aussi. C'est aussi émouvant pour vous d'en parler, j'imagine. Ça a été une grande histoire, une histoire de décennies aussi, de rencontres avec ces hommes. Donc voilà, j'avais envie de parler avec vous, pour nos auditeurs, nos auditrices, de tout cela, de tout ce travail recueilli auprès de ces Chibani. Alors, peut-être que rappeler que quand on est photographe professionnel aujourd'hui, comme vous l'êtes, avant, on a sans doute été photographe tout court. Alors, vous vous souvenez de, comme on pose souvent aux auteurs, les premiers écrits, aux photographes, la première photo ?
La première photo concernant Ulysse ou la première photo
que vous avez prise.
Voilà, déjà, c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, en fouillant dans mes affaires, j'ai retrouvé la première photo, toute première photo que j'ai faite. J'étais en CM2, j'étais en classe de neige et j'avais un appareil, un petit appareil que donnait ma mère. Et la première photo que j'ai faite, c'était un paysage avec un soleil. Et j'ai retrouvé cette photo il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc, et je me suis dit, mais c'est ma première photo.
Voilà. Il faut la garder précieusement. Bah justement, tous les photographes doivent la garder.
Alors, elle est mal tirée comme ça, mais je l'ai reconnue. Tout ce que je me dis, c'est qu'elle était bien cadrée déjà. Et une très belle lumière. Donc, déjà, c'est la lumière qui m'a attirée. Et pour en revenir à Ulysse, bien sûr, ça n'a pas été ma première photographie, mais ça a été peut-être pour moi le premier travail. J'ai envie de dire que j'ai entrepris de manière professionnelle, c'est-à-dire avec un objectif de mémoriser un travail à travers un ouvrage, peut-être une exposition, d'ailleurs c'est le cas, et je pense que c'est peut-être aussi le travail le plus abouti dans ma carrière professionnelle, on va dire, de photographe.
Voilà. Alors, un travail professionnel, c'est un travail de rencontre. C'est un travail d'émotion aussi, parce que si dans votre jeunesse, vous avez photographié un paysage, photographié le quotidien de ces hommes dans les foyers, dans les hôtels, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail d'approche d'abord, de confiance ensuite. Racontez-nous un peu ce rapport que vous avez eu, et puis la décision que vous avez eue de prendre en photo ces Chibani, comme on les appelle aujourd'hui.
Bon, déjà, je voudrais être honnête avec vous, parce que c'est parti quand même d'un malaise personnel. Un malaise, je pense que j'étais pas la seule à le partager, mais c'était un malaise qui se traduisait par une, on va dire, entre guillemets, hein, une haine de soi. Une haine de soi, c'était quoi cette haine? C'est cette image que j'avais de moi, j'ai envie de dire, de ma communauté, de tout ce que représentait mon histoire, de cette immigration. Il y avait une naissance comme ça de mal-être, dans le sens où l'intégration elle n'était pas si simple que ça. Des parcours de vie, des histoires de reconnaissance, de valorisation.
Elle était négative pour vous ?
Ah oui, à mes yeux, elle était négative, bien sûr. Je suis née en 69 et à l'époque, je m'en rappelle, j'étais enfant, j'ai des souvenirs d'ombre, c'est-à-dire de... de racisme, de ratonnade, toutes ces histoires-là liées à cette communauté. Et moi, j'ai été très affectée par ça parce que je voyais que ça touchait personnellement mon environnement, qui était ma famille, mon père, ses collègues, tous ces gens-là qui sont venus travailler, qui est une main-d'œuvre. Et donc, il y avait un décalage entre ce qu'ils étaient réellement et l'image qu'on en percevait. Et cette image dont on a hérité aussi, parce que c'était ça aussi. J'ai grandi avec, je vous dis...
Les conditions de travail, les conditions d'habitat qui étaient...
Oui, et puis c'était aussi tout la problématique des enfants issus de l'immigration qui émergeait dans la décennie 80-90, donc marquée par des grands événements, j'ai envie de dire, comme la marche des beurs.
La marche pour l'égalité contre
pour
le racisme.
Pour l'égalité, contre le racisme, une revendication de citoyenneté avant tout. Voilà. Et donc, voilà, j'étais imprégnée de tout ça, même si j'étais encore jeune, petite. Donc, j'ai grandi avec ça. Donc, il y avait l'option, soit pour moi, soit d'imploser de l'intérieur, comme j'ai envie de dire, toute une génération de l'époque. Et donc, moi, je me suis dit, quelle serait ma solution ou la solution pour moi, pour trouver un espèce de...
De ressort positif ?
Même pas positif.
De réhabilitation, peut-être ?
Oui, peut-être, ou un ressort qui pourrait me donner envie de traverser ma vie, quoi. Parce que c'était pour moi difficile de voir tout ça, ça me touchait trop, quoi, voilà.
Et vous vous êtes tournée vers la photo pour... montrer une autre image, justement, de ce qui était, ce que vous décrivez là comme négatif, comme douloureux.
Bah oui, j'ai choisi la photo parce que je viens pas d'une famille où on parle, où on s'exprime, où les mots, donc c'était le regard. Et donc l'outil artistique pour moi était le plus simple, c'était la photographie, l'appareil photographique. Déjà d'une, je pouvais être autonome. C'est un outil artistique, on peut être solitaire. On n'a pas vraiment beaucoup besoin de moyens pour faire de la photo. Et voilà, et ça a été un moyen pour moi de m'exprimer.
Alors l'expression artistique de la photographie, elle est justement une image à la fois artistique, une image vraiment, comme on dit, une belle image, une belle photo. On parle souvent d'une belle photo. Vous parlez tout à l'heure de votre première photo au paysage. Vous vous sentez-vous une photographe artistique, une photographe engagée, un peu les deux ?
Je dirais les deux. Le côté brut, militant, politique, je trouve que ça lui donne plus d'ampleur quand il y a aussi une dimension esthétique et artistique. Pour moi, c'est indissociable.
Ça veut dire que vous y allez à plusieurs fois quand vous prenez une photo, de toute façon, est-ce qu'elle est l'esthétique aussi ?
Pour moi, c'est d'abord...
Ça existe une photo ratée, par exemple ?
Ah oui, bien sûr. Enfin, c'est relatif, parce que même des fois, sur le moment, elle est ratée, puis des années après, il se trouve que ce ratage devient
Vous voyez l'image autrement, la photo autrement.
Oui, parce que le regard change aussi, le regard qu'on porte sur les images, tout ça. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, avant tout, pour faire une belle photo, c'est d'abord prendre le temps. Et ce temps-là est précieux, parce que c'est un moment où on doit vraiment être connecté, en connexion, pour vraiment pénétrer quelque chose. Et ce temps-là, je le prends, moi. Voilà. Et c'est ce qui donne une dimension à la photo.
On reviendra dans une deuxième partie de notre rencontre sur justement le temps que vous avez pris à prendre en photo ces Chipani, puisque le temps a duré, ça a duré quelques années quand même,
oui.
En un mot là. Sur ce temps, justement, arrêtons-nous sur le temps. Il a fallu la confiance, il a fallu d'abord aller les voir et puis se dire, je vais prendre cet homme-là ou un autre, il faut que je m'adresse à lui, que je lui raconte...
Déjà, j'ai pris le temps pour un petit peu traverser le temps. Parce que sinon, si je serais venue comme ça, j'aurais pris des photos. Oui, j'aurais eu des photos comme ça, mais moi, je voulais vraiment rentrer dans leur temps, dans leur espace-temps à eux. Et pour ça... Il n'y a pas d'autre solution de vraiment s'imprégner de ce temps-là. Donc je l'ai pris ce temps, je me suis payé le luxe de le prendre, j'ai envie de dire, oui, c'est un luxe, hein, de prendre ce temps-là pour vraiment refléter leur univers, leur ambiance, leur temps, leur rythme. Et tout ça, il n'y a pas de tricherie, il fallait vraiment que je...
Et c'est des photos qu'on retrouve dans ce livre Ulysse, je le rappelle, puisque nous parlons de, à la fois de ce livre Ulysse et puis de cette exposition, j'en parlerai ensuite. C'est des livres, des photos qui ont quelques années déjà. C'est un travail, vous parlez de temps, ça veut dire que... Voilà, il y a des photos là d'hommes qui sont là, qui sont plus peut-être, mais qui ont été prises il y a quelques années déjà, mais oui. Qui nous renvoient à un travail de mémoire,
oui.
D'une certaine manière.
C'est ça. Moi, j'ai commencé en 99, en 1999. Il se trouve qu'à ce moment-là, je n'avais pas d'emploi. J'étais une situation où j'étais au chômage et je me suis retrouvée à Marseille. Et à force de déambuler dans les vieux quartiers de Marseille... Je ne sais pas, instinctivement, je recherchais peut-être un lien avec eux, parce qu'ils étaient là. C'était l'âge de la retraite aussi, c'était l'époque où ils commençaient à être à la retraite. Et donc, en les voyant, ben voilà, j'ai eu une envie irrésistible de les prendre en photo, en me disant que mais ces hommes-là, cette histoire-là, cette époque-là, nos parents, c'est aussi l'histoire de nos parents, est en train de partir... Qu'est-ce qui va rester comme trace ? Et donc, j'ai eu ce souci-là, j'ai eu une urgence, je ne peux pas le décrire, c'est ce que j'ai eu ressenti, mais j'ai eu un besoin urgemment de préserver cette histoire-là.
Une histoire de mémoire, une histoire de Chibani, c'est de cela que nous parlons ce dimanche au cours de Voix au chapitre. Je rappelle que je reçois Leïla Bousnina et nous parlons d'Ulysse, au pluriel, qui est ce livre qui vient de paraître, qui sont les photographies de notre invité. Je rappelle aussi que ce livre est aussi une exposition qui a lieu à la galerie Fait et Cause à Paris. C'est la galerie Fait et Cause est située 58 rue Quincampoix dans le 4e. C'est juste à côté de Beaubourg, du centre Georges Pompidou Beaubourg. Et c'est ouvert du mardi au samedi de 13h30 à 18h30 et l'entrée est libre. On se retrouve dans un instant.
Voix au chapitre sur Beurre FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Vous êtes toujours sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre. Je rappelle que je reçois ce dimanche Leïla Bousnina, photographe. Elle vient de publier Ulysse, un livre qui vient de paraître aux éditions Otium. Et ce livre est aussi une exposition qui est située à la galerie Fait et Cause. La galerie Fait et Cause est 58 rue Quincampoix à Paris dans le 4e. L'exposition est ouverte du mardi au samedi de 13h30 à 18h30, ce jusqu'au samedi 29 février. L'entrée est libre et c'est vraiment une invitation aux auditeurs, aux auditrices à aller vous rencontrer Leïla Bousnina après vous avoir entendu aller rencontrer votre travail de photographe. Photographe essentiellement tourné vers ces hommes qu'on appelle Chibani aujourd'hui, je le répète, et qui ont été une sensibilité que vous avez eue de les prendre en photo. Vous vous souvenez aussi de la photo d'un Chibani, d'un homme que vous avez pris, du premier?
Oui, peut-être que voilà, je vais peut-être vous parler de la première photo d'un Chibani. Alors c'était à Marseille, comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai initié personnellement ce travail, hein. C'était pas une commande, c'était une envie. Avant tout, j'ai envie de dire même personnel, de me dire, quoi qu'il arrive, là, il faut que tu fasses ce travail de mémoire, parce qu'il y a besoin, enfin, pour moi déjà. C'est, je pense, lié à ma quête identitaire aussi. Et donc, je me souviens très très bien, en ayant décidé ça, peut-être le jour même, je m'en rappelle très bien, j'habitais à la Joliette à Marseille, il y avait la poste en bas de chez moi, pas très loin. Et je vois un Chibani assez vulnérable, dans le sens qu'il y avait un embouteillage tout autour de lui. Il était au milieu, il était un petit peu perdu, un peu courbé, assez très âgé en plus. Donc je le vois, je vais vers lui et je lui dis « est-ce qu'il a besoin d'aide ?» Et là, je vois qu'il était un petit peu tétanisé par tout. Il s'est formé un petit embouteillage autour de lui. Et là, je lui dis, écoutez, bougez pas, je vais chercher ma voiture et je vous emmène là où vous voulez. Parce qu'il m'avait dit qu'il habitait à Sainte-Marguerite, donc qui était à l'autre bout de la ville de Marseille. Et en lui disant ça, j'ai senti dans son regard la surprise que je veuille l'aider. Et deuxièmement, le temps d'arriver, je voyais dans le bouteillage, je le voyais qui m'attendait, mais son attente, c'était aussi une grande interrogation. Est-ce que je vais venir vraiment le chercher? Et donc, quand il m'a vu devant lui, j'ai klaxonné, j'ai ouvert la porte, je lui ai dit « montez ». Ça a été une gratitude immense, c'est-à-dire qu'ils sont très reconnaissants, touchants, dans le sens « c'est pas possible, tu es vraiment venu, parce que tu as une parole en fait ». Donc je l'ai emmené, et ça m'a permis justement de prendre contact avec lui, parler avec lui, et de débuter une relation avec lui qui m'a permis de continuer ce travail. Voilà.
Mais vous ne lui avez pas dit tout de suite que vous étiez à Marseille, que vous preniez des photos? Il a fallu du temps pour faire le lien avec ces autres hommes, Chibani, qui sont dans votre livre, dans cette exposition. C'est le temps, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, c'est le temps et la confiance qui installe le fait, oui, que vous pouvez sortir l'appareil photo.
Oui, parce qu'au début, moi quand je l'ai rencontré, je dois avouer aussi, j'étais très touchée émotionnellement par ces hommes-là, par leur contact. Donc je venais pas tout de suite avec un appareil, voilà, je suis la photographe. D'ailleurs, je même jusqu'à...
Ils auraient pas voulu, je pense, non?
C'était presque...
On se livre pas facilement...
C'est presque indécent, même, oui, d'aller vers ces gens-là avec un appareil, sans prendre le temps de créer un lien avec eux. Voilà, ça c'était pour moi vital, de créer vraiment un lien authentique et pas juste venir faire la photographe. De toute façon, là vous m'honorez en me disant photographe, mais bon, je me considère avant tout comme une personne. Et donc, non, je prends le temps. Alors c'est quoi prendre le temps? C'est de les écouter, c'est de voir qu'est-ce qu'ils me racontent, échanger avec eux et d'aller à leur rythme, parce que déjà, ils sont un petit peu en marge, un peu en décalage. Donc j'ai découvert une espèce de monde parallèle qui est leur monde. Alors il est fait de quoi ce monde? Il est fait d'attente, il est fait de solitude aussi, il est fait de promenade parce qu'ils n'ont pas vraiment les moyens de dépenser de l'argent, d'avoir des activités, des loisirs, donc c'est souvent soit... des petites rencontres dans une place où ils ont leurs habitudes, soit des petites promenades. Par exemple, M. Sekawi, la première personne, lui, son plaisir, c'était, il avait une canne, il déambulait dans toute la ville en se promenant, en regardant comme ça. Ça lui faisait du bien, ça lui faisait plaisir, ça lui faisait travailler un petit peu le corps, parce qu'il y a aussi toute cette énergie à dépenser, je le vois, hein, plusieurs, ils ont la même... énergie, c'est-à-dire ils se lèvent le matin, ils ont un rite, et on marche à pied, parce qu'on ne peut pas rester là assis à rien faire. C'est des gens qui ont travaillé toute leur vie. D'ailleurs, quand ils vous serrent la poigne, là, c'est une vraie poigne, hein, c'est une petite tapette sur l'épaule, ça peut vous faire tomber, même, attention, c'est des hommes robustes. Malgré, des fois, M. Sekawi, il était courbé avec une canne. Malgré ça, voilà, lui, son plaisir, c'était de marcher à pied, surtout à Marseille, sous le soleil. Donc voilà, il passait le temps comme ça.
Et le jour où vous avez à nouveau été avec lui, une rencontre avec lui, quand vous aviez l'appareil photo, il était en confiance à ce moment-là, il a accepté la photo, voilà, dignement, comme il sait faire, hein, droit, comme l'arbre. Et...
Au début, c'est vrai que si l'appareil photo, moi je ne le cachais pas, que je venais aussi faire des photos, je leur expliquais tout bêtement. Voilà, que j'étais venue aussi récolter cette histoire, leur vie, leur parcours. Alors c'est vrai que eux, la première fois, quand je leur parle de ça, ils sont très surpris. Et c'est ça qui me touchait aussi, de voir qu'on pouvait s'intéresser à leur parcours. Ça, c'était pratiquement tous une espèce de surprise. Ah bon ? Comme si on pouvait intéresser. Comme si on avait des choses à raconter. Comme si...
Vous avez été dans l'échange avec ces hommes, c'est-à-dire que... Pour qu'ils se confient, vous avez raconté un peu de votre histoire, au-delà du fait que vous alliez travailler leur histoire, faire des écrits, faire des photos, pour qu'il y ait encore plus de confiance, être d'une certaine manière à égalité, ça, on peut faire ça?
Je pense que certains ont compris aussi que j'avais un besoin, en dehors de l'appareil photo, de la vocation ou de la démarche photographique, ils sentaient quand même que ils avaient affaire à quelqu'un qui avait besoin de transmission. Voilà, ça, certains le captaient bien, parce qu'ils voyaient que je m'intéressais vraiment à leur vie, à leur parcours. Et en fait, ils voyaient bien que quelque part, ils étaient là un peu comme le père ou le grand-père qui transmet à une enfant son histoire. Ça, ils l'ont capté. le lien, il y avait un lien, et ça, ce lien-là, il était bien clair. Parce qu'il voyait bien, par exemple, on parlait beaucoup des enfants de l'immigration, et il me renvoyait des choses.
Sur leurs enfants à eux, sur leur histoire à eux.
Non, parce que souvent, ces hommes-là, ils sont célibataires.
C'est des hommes seuls, voilà.
En France, c'est-à-dire qu'ici, ils ne sont pas avec leurs enfants, ni avec leurs femmes. Ils ont laissé leur famille au bled. Mais par contre, ce qui est intéressant...
Mais ils font les allers-retours au bled. Ils ont fait, en tout cas.
Ils le faisaient à l'époque, une fois par an, minimum, on va dire. Parce que des fois, c'est une fois tous les deux ans. Des fois, non. Il y a des ruptures aussi. Attention, il y a de tout. Il y a toutes sortes de parcours aussi.
Mais... Ils vivaient en foyer, en hôtel meublé. Ils étaient dans quelle
configuration ?
Souvent,
il y en a qui commençaient au bidonville. Après, le bidonville, c'est le café... Café-hôtel, et après, à partir des années 70, fin des années 60-70, il y a eu l'histoire, la construction des foyers, donc le logement en foyer, et puis voilà, donc les hôtels meublés, comme par exemple le 125 rue du Faubourg du Temple, qui était un hôtel meublé, et avant ça, c'était les réfugiés espagnols, qui ont investi ce lieu, qui après
les autres, tous ces hommes qui vivaient dans ces hôtels meublés, dans cet hôtel meublé par exemple au 125 que vous avez aussi investi entre guillemets de votre travail, de votre rencontre, de vos rencontres avec ces hommes, c'est des hommes qui se connaissaient dans le foyer ou qui se connaissaient d'une même arrivée en France? Parce que souvent on a le petit bout de papier et puis il y a le cousin qui est au 125 et donc on va aller là-bas, il y a peut-être une place pour moi. Comment ça s'est passé?
Déjà c'est ça. Déjà il s'appelle l'hôtel Figig, donc ce qui veut dire Figig, c'est une région au Maroc, pas très loin de la frontière algérienne. Et c'est vrai que du coup il y a beaucoup aussi de Marocains qui sont venus s'installer là. Donc on retrouve des groupes comme ça, c'est-à-dire voilà il y a quelqu'un du village qui est installé là, donc on le rejoint. Mais il y a aussi, ils se connaissent aussi par le travail. Par exemple, moi je me suis rendu compte qu'à Marseille, ou à Lille, ou à Paris, ils pouvaient se connaître. Pourquoi ils se connaissaient? Parce
du
que
chantier,
de l'usine. Voilà. Et ça, on sent qu'il y a eu une époque où le travail, d'ailleurs il me le disait, il y avait beaucoup de travail, ça bougeait, on pouvait démissionner là, ou alors finir notre contrat là, et puis être embauché l'après-midi dans une autre usine. Donc, du coup, voilà, ça fait qu'il y en a plein qui se connaissent entre eux, même s'ils n'habitent pas dans les mêmes endroits. Et c'est ça qui est étonnant. Quand, par exemple, à Marseille, quand je vous parle du premier...
de la première rencontre.
Lui, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, il vivait dans un petit hôtel meublé, et de temps en temps, sa famille envoyait le fils aîné, qui était instituteur en Algérie, pour venir le récupérer, l'emmener en Algérie. Parce qu'il était à la retraite, il était âgé, je vous dis, il était vulnérable, une canne courbée. Puis on sentait qu'il n'a pas le temps de se cuisiner, pas les moyens, mais malgré tout, enthousiaste à se balader dans la ville de Marseille, heureux, parce qu'il était seul, tranquille. Son fils aîné venait pour l'emmener en Algérie, en lui disant « Maintenant, c'est bon, tu restes avec nous, t'es vieux, t'as travaillé. » Il allait... Le fils, quand même, mettait 10 jours à le trouver à Marseille parce qu'il se cachait le père. Hein. Après, il le retrouvait, il repartait avec le père. Moi, je me disais, oh là là, c'est dommage, je ne vais pas le voir pendant longtemps, le temps qu'il revienne.
Oui, il restait 2-3 mois.
Non, au bout de 10 jours, je le voyais.
Et il avait hâte de revenir à Marseille.
Et je le revoyais, et tout malin, il venait vers moi, tu sais. Tout coquin, il me disait, oui, je suis arrivé à revenir. Je dis, mais comment t'as fait? Vous venez de partir. Et vous... Il me dit, écoute, moi, là-bas, au bout de... je fais le fou. Et quand je fais le fou, c'est eux qui me virent. Donc, ils viennent me chercher, mais après, ils me virent parce qu'ils n'en peuvent plus. Donc, il revient tout heureux. Donc, entre-temps, j'avais plus de nouvelles de lui. Et j'avais décidé d'aller faire ce travail-là, continuer ce travail, dans un foyer. Donc, ça a été le premier foyer où j'ai mis les pieds. C'est au foyer de Félix Piat à Marseille. Et là, je dois dire que cette première rencontre m'a permis de faire des photos avec les autres hommes, parce qu'au début, quand je rentrais dans la salle du foyer, ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle nous veut, celle-là qui vient tous les jours? En plus, je venais pas, je suis photographe, parce que je voulais aller doucement.
Discuter, échanger.
Voilà. Donc c'était
être en confiance avec
très intrigant. Qu'est-ce que quelqu'un qui vient tous les jours, et finalement grâce à Abdelrahim Sekaoui, paix à son âme parce que maintenant il est décédé, je me suis en montrant cette photo là.
Les autres se sont livrés et ont raconté.
Non, déjà me dit, mais il est mort ce monsieur. Et c'est vrai que je n'avais pas vu depuis au moins 2-3 mois. Bon, moi je pensais qu'il était retourné entre-temps au pays parce que son fils a dû venir le rechercher. Et en fait, non, j'ai appris par eux. Et ça a été aussi là où ils ont compris qu'est-ce que je voulais faire avec eux, quel était
ce travail de mémoire. Voilà. Leïla Bousnina, elle en parle passionnément de ces Chibani qu'elle a rencontrés au cours de sa vie et qui sont imprégnés aussi dans sa vie. On y reviendra sans doute avec cette démarche d'image, de mémoire, de cette histoire de nos pères, de nos Chibani, comme on les appelle aujourd'hui. On la retrouve dans un instant.
Voix au chapitre sur Beur FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beur FM.
Leïla Bousnina est l'invitée de Voix au chapitre ce dimanche et nous parlons d'Ulysse. C'est le titre de son ouvrage. Il vient de paraître aux éditions Opium, un livre de photos. Un livre de photos et qui est accompagné de textes. Et justement, de la photographe que vous êtes, il y a aussi les textes puisqu'ils se livrent en posant, si je puis dire. Et puis vous prenez des photos aussi de leurs intérieurs, leur chambre, leur quotidien. Et ils vous ont raconté l'histoire, donc vous aviez la plume et le petit carnet, enfin le stylo et le petit carnet pour entendre ce qu'ils vous livraient, ou vous récoltiez comme ça dans votre tête ce qu'ils vous racontaient pour après l'écrire ?
Non, je faisais vraiment des entretiens avec eux, un tête-à-tête on va dire. Voilà. Et ce tête-à-tête me permettait de créer un lien avec eux, de leur poser des questions. Après, ils voyaient bien que j'avais quand même une directive, et c'était ça, leur parcours, leur histoire de vie. Donc, j'arrivais à établir ce lien de confiance pour échanger.
Et ce lien de confiance, il a pris du temps à chaque fois ? C'était en plusieurs séances, parce qu'on ne se raconte pas facilement, mais quand on est rentré dans l'histoire après, j'imagine qu'ils avaient hâte de vous revoir pour la suite.
Ça dépend. Par exemple, il y en a au début, le premier entretien, je jouais le jeu. Je sentais qu'il me disait ce que j'avais envie d'entendre, c'est-à-dire, j'ai bien travaillé, j'ai été ci, j'ai tata, je suis venue... Bon, en fait, moi, je ne me satisfais pas de ça, parce que je voulais vraiment ce lien, ce dialogue qu'on pouvait avoir, échanger sur la vie, sur le parcours. C'est ça qui
prenait
du temps.
Parce qu'ils pouvaient vous raconter l'absence de la famille aussi, ça fait partie de leur histoire.
Ils pouvaient aller...
seul au foyer ou être seul à l'hôtel.
On abordait tous les sujets après, mais... Oui. C'est-à-dire que le premier contact comme ça, par exemple, je donne des exemples, pas tous, vous savez, j'en ai rencontré beaucoup d'hommes, et c'est ça aussi que je me suis rendu compte, c'est que chacun a une histoire particulière, a une personnalité. Mais par exemple, certains, le premier contact que j'avais avec eux, donc les grandes lignes, ils me racontaient les grandes lignes, et des fois même, ils arrangeaient un peu les choses, pour pas me dire vraiment des choses. Et puis, comme je restais, comme je revenais, donc j'apprenais petit à petit. Par exemple, au début, le premier entretien, il va me dire ça, il va me dire telle chose. Je me rends compte au bout de quelques temps après, en reparlant du même sujet avec lui, qu'il va me le dire autrement, qu'il va me dire d'autres choses, ou qu'il va se livrer, ou qu'il va me dire une chose qu'il n'a pas voulu me dire au début. Donc c'est
petit
ça.
Petit à petit, la parole se délie.
Voilà, c'est ça le temps que j'ai pris. Si je me serais satisfait du premier contact, premier entretien, je pense pas
c'était
que...
C'était pas en profondeur, ça aurait pas été...
C'était pas en profondeur, je n'aurais pas pu saisir vraiment cette complexité de vie, j'espère qu'il transparaît dans les textes,
Oui, parce que dans le livre est ponctué de belles photos, c'est un livre de photos, mais à quelques pages, il y a un petit cahier texte qui est assez... bien présenté, en deux pages, où on apprend, deux, trois pages, où on apprend la vie de Mohamed, par exemple, et suit les photos de Mohamed dans un portrait, ou dans son quotidien, dans sa chambre d'hôtel, ou quelquefois en dimanche, quelquefois en train de se préparer son repas. Je trouve qu'il y a vraiment, pour les auditeurs, auditrices qui ne voient pas que je feuillette le livre, en tout cas, il y a quand même envie de leur dire que c'est vraiment le quotidien des anciens qui est...
Leur intimité.
leur intimité, voilà, intimité. Dans leur chose plus personnelle, quand ils sont tous ensemble en train de manger ou de boire un thé, quand ils sont, voilà, dans voilà le week-end dans la rue ou sur un banc, voilà, on est vraiment où préparer son café avec la cafetière italienne. Enfin, on est vraiment dans des belles images, un grand sourire, je vois là de ce Shibani. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de très très intime et puis de voilà qui est de très attachant, de très émouvant dans leurs images. Et vraiment, j'invite les auditeurs auditrices à poursuivre la rencontre que nous faisons là en allant voir votre exposition, parce qu'elle est vraiment... D'abord, elle s'appelle Ulysse. Pourquoi ce titre d'abord, Ulysse ?
Alors justement, Ulysse, c'était pour les sortir des couloirs de foyer ou
d'hôtel,
d'hôtel meublé insalubre, pour les mettre sur la voie de l'histoire universelle. Parce que pour moi, c'est des histoires d'hommes, des valeurs aussi, qui sont de valeurs, de courage, de loyauté, de sacrifice, de dévouement. Et pour moi, je me disais, mais ça fait des grands hommes tout ça quand même.
Absolument. Ulysse, immigré, fin de parcours. Les photographies de Leïla Bousnina, elle est notre invitée aujourd'hui à Beurre FM. L'exposition a lieu à la galerie Fait et Cause. La galerie Fait et Cause est à Paris. Elle est 58 rue Quincampoix, dans le 4e arrondissement. C'est à deux pas du centre Georges Pompidou Beaubourg. C'est ouvert du mardi au samedi, de 13h30 à 18h30. L'entrée est libre. C'est au métro Les Halles ou Rambuteau. Elle a commencé dans ce courant janvier et se termine le 29 février. Alors il y a vraiment encore du temps et vraiment pas à aller la voir. Et il y aura de donner-nous d'autres informations, Leïla Bousnina.
Oui, alors lors de cette exposition, on organise deux rencontres avec avec l'édition du livre qui est Otium et non Opium. Et donc on organise deux rencontres parce que ça suscite aussi des débats, des questions autour des conditions de vie de ces gens-là, de leur vie. Donc le 6 février avec Mohamed Wadan, qui est militant, chercheur.
Et Abdelkader Djemaï, qui est un écrivain magnifique, un grand romancier algérien aussi.
Donc le 6 février, cette première rencontre, pour parler justement autour de cette mémoire-là. Et puis le 22... Attendez, je notais. Et puis le 20...
Le 22 février.
Le 20 février, avec Saïd Bouamama, qui est sociologue et militant, là pour parler aussi de justement tout l'aspect, les conditions du foyer. Donc ça sera aussi une manière aussi d'évoquer tous les aspects en dehors de l'artistique, parce que moi je me considère avant tout en tant qu'artiste, mais à travers eux, pour moi, c'est un microcosme de plein de sujets.
C'est la société française, hein.
Voilà.
C'est le prolétariat, c'est la société ouvrière, c'est la société urbaine aussi, puisque on est dans la ville, voilà. Donc c'est aussi important de montrer ça. Et puis, n'en déplaise à certains, ces hommes, ils sont l'histoire de France dans l'histoire sociale, donc l'histoire de travail et l'histoire de la vie quotidienne.
Mais justement,
qui n'a pas un voisin immigré on ne peut pas ne pas les voir. C'est aussi ça.
Oui, mais en même temps, ce qui est dommage, c'est que c'est une belle histoire, parce que si j'ai mis 18 ans à faire ce travail, c'est parce qu'en 2003, lorsque j'ai fait ma première exposition, où dans ma tête, naïvement, je pensais que c'est une histoire déjà identitaire, personnelle, et en plus de ça, qui va concerner d'autres gens issus de l'immigration comme moi, où ça va les toucher, où il y a cette fibre, l'affect, on va dire, où il y a avant tout une question d'affect, nostalgie. Je pensais, j'en étais là, moi, avant tout, à ce moment-là, même si je savais aussi qu'il y avait une dimension entre guillemets sociologique, parce que ça pouvait être aussi une chose ou une trace d'une mémoire d'une sorte de société. Mais au début, naïvement, je pensais que c'était uniquement mon histoire personnelle que je pouvais traiter avec un outil artistique. Mais quand j'ai fait mes premières expositions et que j'ai vu l'empreinte qu'ils avaient auprès de tous les citoyens français, et qui est aussi une histoire touchante, émouvante, comme moi j'ai ressenti envers eux, je me suis dit, mais...
Elle ne vous appartient plus, elle appartient à tous et à toutes.
Mais ils font partie de la société, à part entière de la société française. Et combien nombre là, parce que je reste des fois accueillir des visiteurs à la galerie, je suis émue parce que je vois plein de gens d'horizons vraiment différents de moi. Et le lien, c'est de me dire, ben oui, mais moi, quand j'étais petite, je sais très bien que c'est eux qu'on construit, je les voyais. Enfin, chacun a un lien avec eux. Et c'est ça qui me fait très plaisir parce que eux ne pensaient pas qu'ils avaient une place aussi importante dans cette société. Et je voulais aussi voilà, leur rendre hommage en disant, mais si, parce que, en plus, c'est une figure de père serein, enfin, serein, j'ai envie de dire, de tolérant, humble, plein d'humilité. Et en même temps, avec une grande dignité.
La dignité de ces hommes, de ces Chibani, c'est sur ce mot-là qu'on va se quitter, Leïla Boussina. Merci d'être venue à Beurre FM ce dimanche, nous parler passionnément et avec émotion de ce travail que vous menez depuis près de 20 ans autour des Chibani. Et je rappelle le titre de votre ouvrage, Ulysse, avec un S, il vient de paraître aux éditions Otium, et ce livre est aussi une exposition, je le rappelle encore, qui se trouve à la galerie Fête et Cause, et à la galerie se trouve 58 rue Quincampoix à Paris dans le 4e, c'est à deux pas du centre Georges Pompidou, Beaubourg, et c'est tous les mardis, du mardi au samedi, de 13h30 à 18h30, l'entrée est libre. Leïla Boussina nous a rappelé les deux rendez-vous importants, le 6 février à 18h30 avec Mohamed Ouadane, qui est universitaire et qui connaît très bien le travail mémoriel qui est lié à l'histoire de l'immigration, et il sera avec Abdelkader Djemaï, qui est un romancier algérien qui a écrit aussi, lui, sur les Chibani, Gare du Nord, et puis Derrière la Vitre, deux romans remarquables sur les vieux qu'il a observés, mais les vieux, pas que Chibani, pas que étrangers d'ailleurs, vieux français aussi, qui sont de romans intéressant. Et un peu plus tard, dans ce mois de février, il y a un autre rendez-vous avec Saïd Bouamama qui aura lieu le 20 février à la galerie. Et peut-être le plaisir, Leïla Boussina, d'être, pour les auditeurs et auditrices, vous serez quelquefois dans la galerie, samedi notamment peut-être.
Le samedi.
Et puis au cours de ces rencontres, c'est sûr.
Au cours de ces rencontres, bien sûr. Et sinon, j'essaye d'y être le samedi et le mercredi après-midi.
Au plaisir de vous rencontrer à la galerie. Merci à nouveau. D'ici là, on se quitte maintenant. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, passez une bonne semaine. Et je rappelle que le week-end prochain se tient à l'Hôtel de Ville de Paris, le Maghreb des Livres, et que Beurre FM sera en direct pour des émissions le samedi après-midi de 14h à 17h. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir à tous, au revoir à toutes. Au revoir, Leïla Boussina.
Au revoir, merci.
Voix au chapitre sur Beurre FM.